France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Après Joël Dicker, depuis le Salon du Livre de Genève et notre séquence autour du Printemps des Poètes qui vous a beaucoup fait réagir, une émission à retrouver en podcast Balado Diffusion. On vous raconte des confidences en Tunisie, en contact avec un cheval ou encore au soir de la vie. Voici le sommaire.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Marie Nimier revient en librairie avec un livre de confidences recueilli en Tunisie. Elle poursuit une expérience littéraire réjouissante entre le témoignage et la nouvelle. C'est un artiste qui incarne l'art et la passion avec panache, un fidèle de la librairie francophone qui raconte la rencontre entre une immense danseuse et un cheval. Bonjour Bartabas.
Bonjour.
Cette danseuse, c'est la regrettée Pina Bausch. L'art équestre est une danse pour vous ? On peut dire ça ?
Oui, c'est une danse et un dialogue du silence même.
Oui, quel genre de danse ?
Une danse pleine d'attention.
Aérienne aussi ?
Bien sûr.
Mmh. Bon, vous nous en parlerez tout à l'heure ?
Oui.
Vous êtes très en forme aujourd'hui, Bartabas.
Tout à fait.
Bon, merci d'être avec nous. Nous serons aussi avec l'écrivaine belge Emmanuelle Pirotte, qui publie un livre sur une thématique en phase avec l'actualité. Une femme âgée en fin de vie décide de partir avant de perdre ses facultés physiques et mentales. Et on commence avec l'actualité francophone de la semaine. C'est le prix Amadou Kourouma qui récompense un livre qui est consacré à l'Afrique subsaharienne. Cette année, c'est Bessora qui a reçu le prix en Suisse. Bonjour Bessora.
Bonjour.
Toutes nos félicitations. Ce prix vient après avoir reçu déjà en février le Grand Prix de littérature suisse. Vous, les ancêtres, est paru aux éditions Lattès. C'est pour ce livre que vous avez eu ces prix. Comment vivez-vous ce moment de consécration, hein ? On peut dire que c'est la consécration pour vous là.
Ah bah j'ai l'impression d'être morte avec le mot consécration, mais
on n'a pas dit hommage.
J'espère écrire encore beaucoup de livres et puis ouais je suis ravie d'avoir eu ce doublé. C'est toujours important pour un auteur d'avoir des prix. Ça flatte son ego mais ça donne de la visibilité au livre aussi et c'est important.
Oui et puis le prix Amadou Kourouma c'est important. C'est un symbole.
Ah bah c'est un beau prix, ouais, c'est un symbole. Je crois que c'était le 20e anniversaire du prix Kourouma, donc émotion à Genève lors de la remise.
Bon, vous avez publié 13 romans, 4 recueils de nouvelles. Vous êtes né à Bruxelles d'un père diplomate gabonais et d'une mère suisse. Vous avez ainsi grandi en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Et c'est un volet de votre saga nommé La dynastie des boiteux qui est récompensée. Vous évoquez l'histoire des colonisations, de l'esclavage avec la question de l'identité. Il y a Jane, une boiteuse qui sert dans une plantation pendant 7 ans. Qui sont exactement les boiteux, Bessora ?
Bah écoutez, tout commence avec Jane, qui est une enfant trouvée en Cornouailles au XVIIe siècle. Et cette enfant trouvée orpheline va être accusée d'un vol à tort à 17 ans. Et donc, elle va être condamnée à servir pendant 7 ans dans une plantation de tabac aux Amériques avec des esclaves noirs et blancs. Et c'est le début d'une vie hors du commun qui va faire d'elle la matriarche d'une dynastie de boiteux sur 4 siècles et sur 3 continents.
Alors mais pourquoi les boiteux ? Pourquoi les appelle-t-on comme ça ?
Parce que quand j'ai commencé à écrire ce bouquin, il y a une quinzaine d'années, j'avais des problèmes de genoux et donc je déraillais quand je marchais. Et j'ai trouvé que c'était une figure romanesque assez intéressante qui ressemblait aussi à ce que je voulais raconter.
On pourrait penser aux personnages enchaînés aussi, lors de l'esclavage.
Oui, aussi. Je pense que c'est une saga qui parle aussi pas mal des rapports de domination entre les faibles et les puissants, du fait qu'on n'est pas forcément toujours un dominé ou forcément toujours un dominant. Mm-hmm. Et puis, j'aime bien la figure du boiteux, qui est un petit peu la figure du paria, quoi.
Oui, c'est ça.
De celui qui est toujours un petit peu à côté de ses pompes et à côté de ce que la société pourrait attendre de lui.
Bon, votre genou va mieux depuis ? depuis que vous avez écrit ces livres?
Bah, écoutez, je me suis fait enlever un bout de ménisque il y a très longtemps, mais ça va, maintenant bon. Je peux faire un appui talon-fesse, tout va bien.
Très bien. Merci beaucoup Bessora, merci d'être à nouveau dans la librairie francophone. On avait parlé de ce livre il y a quelques mois. Je rappelle que vous venez d'obtenir le prix Kuruma 2024 pour votre roman, donc Vous, les ancêtres, paru chez Lattès. Félicitations à nouveau et bonne continuation. À bientôt Bessora.
Merci, à bientôt.
Et voici nos libraires. Comme chaque semaine, quatre sont avec nous. Bonjour la Belgique, bonjour Nathalie Clairin.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie de la Mazrine à la Hulpe. Pour le Canada, on retrouve Audrey Martel de la librairie L'Exèdre à Trois-Rivières. Bonjour Audrey.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous?
Ça va très bien, merci.
Ça va. Bonjour Annick Vermeaux.
Un éblouissant bonjour de Suisse, Emmanuel.
Vous êtes éblouissante, éblouissante libraire à Martigny dans la librairie Zalactoré. En France, c'est Mathieu Colombe de la librairie Goulard qui est là. Bonjour Mathieu, avec deux T.
Et bonjour Emmanuel.
Oui, hein, vous tenez beaucoup aux deux T de Mathieu.
Ah bah oui, quand même, oui. Je suis né avec, hein. Vous savez, on s'y fait c'est au ça, bout d'un moment, c'est ça. On s'y attache.
Voilà, ça va beaucoup mieux à Aix-en-Provence, Mathieu. Merci d'être avec nous. On part en Tunisie avec notre premier invité en plateau. Cette chanteuse tunisienne, Habir Nasraoui. Bonjour Marie Nimier.
Bonjour Emmanuel.
Vous connaissez cette chanteuse?
Non, je ne connais pas cette chanteuse.
On vous passera cette chanson. Elle est magnifique. Après des confidences françaises parues en 2019, vous publiez ces confidences tunisiennes aux éditions Gallimard. Un jour, vous avez décidé de recueillir les témoignages d'anonymes et d'en faire de petites histoires, très fidèles à ce que l'on vous a raconté. D'où vient-elle cette idée? Rappelez-nous la genèse.
C'était à Nantes, lors d'un festival, on m'avait demandé de faire des choses avec la population locale, n'est-ce pas? Et en fait, j'ai reçu des gens, j'ai passé des petites annonces, et j'ai reçu des gens les yeux bandés dans une pièce vide, et les gens venaient me raconter des petits bouts de vie, des impromptus, des aveux, des secrets, des confidences.
Alors ça devient une obsession pour vous? Vous demandez des confidences à tout le monde?
Comment... Alors, le truc, c'est pas une obsession, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, il fallait que j'y retourne, quoi.
C'est excitant?
Ouais, il y a quelque chose de cet impromptu, de cet imprévu, des gens qui viennent vous livrer quelque chose de totalement inattendu et qui ne racontent pas en général aux autres. Alors moi j'ai beaucoup de mal avec la conversation, par exemple les dîners, les choses comme ça, mais alors ces moments-là sont des moments pour moi tout à fait précieux, et parce que je sais aussi que je vais faire rebondir ces récits sur autre chose, sur de l'écrit, sur d'autres confidences, et que ça va devenir un monde.
Regardez Bartabas. Bartabas, vous avez confié quelque chose à Marie Nimier déjà ou pas? Elle vous a demandé?
Non, non, on a dîné ensemble hier soir après le spectacle.
Ah oui, elle est venue voir le spectacle.
Un peu, c'est tout.
Je suis collé avec modération, bien sûr.
Avec modération, bien sûr. Être en forme.
Ben évidemment. Alors au départ pour ce livre, Marie, vous vouliez aller en Chine, mais la crise sanitaire a contrarié votre projet et vous êtes retrouvée en Tunisie. C'est une amie qui vous dit, mais viens donc en Tunisie. Elle vous accueille. Et elle vous dit, tu verras, les gens ici aiment parler. Et vous y restez 2 mois quand même.
Oui, alors j'ai eu aussi l'aide d'une résidence où j'ai pu habiter, la résidence Salambo. C'est organisé par l'Institut français, donc j'ai été un peu aidée aussi pour que ce soit plus facile de rencontrer des gens. Mais après, c'est vrai que je ne vais pas tellement vers les gens pour leur demander des histoires.
Non,
c'est
vous attendez.
Les gens qui viennent vers moi. Alors par exemple, là, j'allais au Safsaf, j'allais dans des cafés régulièrement à heure fixe, et les gens me voyaient travailler, les habitués et tout. Puis au bout d'un moment, ils disaient, mais c'est qui cette personne-là? Et donc, ils venaient vers moi. Et puis ils me disaient, mais vous êtes professeur, vous êtes quoi, etc. Non, je suis romancière, et qu'est-ce que vous faites là? Et comme ça, je leur parlais de mon projet. Et ils me disaient, ah, moi j'ai un truc à vous raconter. Je dis, non. Pas tout de suite.
Alors voilà.
C'est ça, il y a une espèce de truc de frustration. Non,
vous êtes incroyable, Marie.
Ne racontez rien. Non, je suis incroyable.
Non seulement vous utilisez les histoires des autres, mais en plus vous les attendez. Donc c'est une démarche d'une écrivaine en mal d'inspiration, un peu fainéante, ou c'est une expérience
pour vous
confronter au réel.
C'est ça, je ne sais absolument plus quoi raconter.
Ben oui.
Non, mais c'est tellement beau, en plus, cette espèce de métamorphose entre ce qui vous est raconté et ce que ça devient dans le livre, ce chemin entre le témoignage. Et puis les gens savent très bien que je vais ce qu'on appelle anonymiser, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir les reconnaître.
Mais vous ne transformez rien.
Je transforme beaucoup de choses.
Ah
je
si,
leur
quand
dis
même.
Au départ, je leur dis au départ.
Oui,
ils me donnent leur histoire. Et d'ailleurs, en Tunisie, je ne sais pas, encore plus qu'en France, ils étaient. Mais ils disaient, mais bien sûr, tu es romancière. C'est ton métier, c'est ton travail, les mots. Évidemment, quand.
Donc, invente aussi un peu.
Oui,
c'est ça
et parfois aussi, quand il y a trois confidences sur le même thème, à peu près, je vais les mettre un peu ensemble. Bon, c'est une façon aussi de déguiser les gens, qu'on ne les reconnaisse pas.
Bon, vous êtes allé dans un café à proximité d'un marché et des Tunisiens donc sont venus avec leurs histoires personnelles, parfois toutes simples, presque banales et souvent avec des récits improbables. Comme cet homme qui décide un jour soudainement de changer de vie. Il est directeur adjoint d'une entreprise d'informatique florissante, tout va bien, il transmet même sa passion pour le métier aux plus jeunes et puis un jour normal, d'un coup, il convoque le personnel à 17h30.
Il convoque le personnel et il me raconte ça. Je ne savais même pas moi-même que j'allais dire ça. Et il dit, voilà, je m'en vais. Il rentre chez lui, il ne l'avait pas dit à sa femme, rien. Il me raconte ça, il me dit, j'ai pris trois valises, des vieilles valises, parce que sinon ma femme, elle m'aurait engueulée. J'ai mis tous mes costards et mes chemises dedans. Je les ai fermées et j'ai enroulé une cravate. Alors, c'est ça, c'est le détail, quoi. Pour fermer l'une d'elles qui ne fermait pas bien, je les ai mises sur le trottoir et j'ai arrêté de travailler.
Et il change de vie comme
et
ça du jour au lendemain.
Complètement de vie.
Il ne reviendra jamais dans son entreprise.
Non, alors qu'il avait l'air très heureux dans son entreprise.
Incroyable.
Et ça, c'est vrai que des bascules de vie, j'en ai eu plusieurs dans les récits. Et...
Cette jeune femme médecin aussi, qui vous raconte avoir vécu une dépression profonde suite à un excès d'empathie, dit-elle. Elle vous dit « J'absorbais à chaque consultation la souffrance des patients et un jour, cette souffrance est devenue insoutenable ».
Oui, c'est quelqu'un qui avait vraiment envie de changer le monde, qui avait tellement d'espoir pour le monde qu'elle ne pouvait même pas supporter les maladies finalement. Alors elle était ophtalmo, elle avait pensé qu'à travers les yeux, le soin des yeux, elle serait moins en vis-à-vis avec la douleur et la mort. Mais en fait, si, parce qu'évidemment, des enfants arrivaient, ils étaient très mal en point et elle ne supportait pas ça. Et elle est passée par la case hôpital psychiatrique, mais ce qui était très touchant dans son récit, c'est qu'elle ne l'a pas dit à ses parents,
non.
Elle ne l'a dit à personne.
Elle l'a caché à tout le monde parce qu'elle dit la maladie mentale est perçue comme une punition.
Et ça, plusieurs personnes m'ont parlé de ça, de la psychiatrie en Tunisie. C'est terrible. Parfois, il y a des parents qui disent « lis un peu de Coran et puis ça va aller mieux ». Qui ne prennent pas la maladie comme quelque chose de vrai.
Il y a beaucoup cette notion de punition dans ces confidences, Marie Nimier. La punition, c'est aussi quand on est attiré par une personne du même sexe que soi. Il y a des femmes qui vous racontent qu'elles s'arrangent au hammam avec une intimité forte qui permet des pratiques sexuelles discrètes. Mais pour les hommes, c'est encore plus compliqué. Et pourtant, on vous dit que le Tunisien est tactile. Ces femmes vous disent que les hommes se tiennent parfois par la main dans la rue.
Oui, il y a une
Et l'un d'entre eux vous dit pour être tranquille, il faut draguer les femmes de façon un peu lourde. Comme on est classé hétéro.
Comme ça, t'es hétéro. Tu fais chier les filles, comme ça t'es hétéro. C'est un jeune homme. Après, tout le monde se débrouille, mais alors le truc, c'est de pas mettre de la... Ils font semblant de pas être amoureux, de pas s'aimer, comme ça, c'est juste physique, tu vois. C'est juste un truc physique. Moi, je suis pas pédée, c'est juste physique. Qui me raconte ça? C'est quelqu'un qui a un peu réfléchi à ça et qui vit ses relations de façon plus apaisée, mais en marge, parce que l'homosexualité est encore punie, que ce soit féminine ou masculine, est encore punie d'emprisonnement. Donc on n'est jamais à l'abri d'une dénonciation. D'où l'importance de l'anonymat dans mes confidences et du déguisement aussi des nouvelles.
Il est beaucoup question de sexualité, on va y venir. Bartabas, vous avez lu ce livre ?
Oui, j'ai bien aimé le dernier, enfin je les ai tous aimés, mais le dernier est assez marrant. Elle m'a expliqué mieux que moi.
Non mais allez-y justement, j'essaye de vous faire parler.
C'est le dragueur professionnel qu'on voit arriver avec ses gros sabots. Quoi.
C'est un séducteur à la chaîne.
Oui, c'est ça. Qui enchaîne les conquêtes.
En fait, ne veut plus jamais s'arrêter jusqu'à... C'est assez drôle, je veux dire, pour fermer le livre, en plus, c'est assez... J'aime bien la chute.
Et ça, c'est une confidence que j'ai reçue par téléphone.
Ah oui.
Le jeune homme me téléphone, il passe deux heures ensemble au téléphone. Au bout de deux heures, il dit « Bon, je dois y aller, je peux téléphoner demain ». Alors, il a retéléphoné le lendemain, encore deux heures. Je pense que j'aurais pu faire un livre entier avec lui.
On va voir du côté de nos libraires s'ils ont aimé vos récits, Marie Nimier, avec la Suisse et la Belgique. On commence avec la Belgique, Nathalie Clairin.
Oui, eh bien, Emmanuel, les choses qui sont chuchotées, en général, elles sont hautes en émotion et puis touchantes. Et ça a été le cas pour moi ici. Ces courtes histoires, elles m'ont intriguée, elles m'ont instruite et le plus souvent amusée. C'est finalement autant de pièces de puzzle qui finissent par montrer le visage de la société tunisienne dans tous ses contrastes, c'est-à-dire du doux au dur. Alors, le ton, il est rafraîchissant. Non, c'est vraiment très agréable à lire.
Bien, la Suisse, Annick Vermeau, êtes-vous d'accord ?
Alors, lors de la lecture de ces différentes confidences, j'ai régulièrement eu les yeux embués par l'émotion, ce qui n'est pas très pratique pour déchiffrer les mots, comme vous pouvez vous en douter. J'ai trouvé qu'avec une douceur infinie et un infini respect, vous avez accueilli et retranscrit ces histoires. J'ai ri, j'ai grincé des dents, j'ai pu sortir plein de mouchoirs.
Ah,
en
oui.
un mot, j'ai été touchée en plein cœur.
Tiens, oh, c'est merci. Drôle ça, vous avez pleuré.
Voilà, vous allez me faire pleurer aussi.
Vous avez pleuré en les écrivant, Marie, parfois ?
Ouais,
c'est vrai.
Et en les écoutant aussi.
Ah
et
bon
on a beaucoup pleuré aussi en me les racontant, il y a eu beaucoup de larmes.
Ouais. Ouais, y a un homme qui vous raconte des choses en pleurant d'ailleurs à un moment dans une histoire.
Les hommes ont beaucoup pleuré ouais. surtout. D'ailleurs,
Martha
beaucoup
Bass.
D'hommes sont venus me raconter des choses qui étaient... Parce qu'il n'y a pas été le cas en France où c'était une majorité
ouais, ouais,
de femmes.
Ouais. Martha Bass, vous avez pleuré un peu aussi ?
Pleurer non, mais ça m'a transporté à chaque fois. Quoi. À chaque fois, on se met à la place du personnage, c'est assez intéressant parce qu'on y a... ça va assez vite en plus.
Oui, oui.
Les récits sont courts, donc on passe vite d'un à l'autre. Et ça donne une sensation assez étrange d'avoir vu toute une galerie de personnages en très peu de temps.
Il y a des confidences donc de viol et d'abus sexuels, Marie Nimier, c'est ouais. très touchant, effectivement très émouvant, avec des jeunes femmes qui sont très exposées et rarement prises au sérieux quand elles portent plainte, comme cette jeune fille qui est prise à partie au départ et abusée par un contrôleur, le contrôleur d'un train.
Une femme là-bas qui doit rester vierge jusqu'à son mariage, n'est-ce pas ? Et puis si elle est touchée, si elle est abusée, on dit qu'elle est cassée.
Oui.
C'est horrible ce mot, cassée.
Es-tu une fille cassée ? C'est ce que
cassée.
Sa maman va lui demander.
Ouais, cassée. Et en fait, elle m'a raconté par le menu ce qui s'est passé. Voilà, moi, je suis très émue, même voilà, me souvenir de la voix de cette jeune femme qui était, c'était par téléphone aussi. Mais ce que j'ai adoré, c'est que il y avait tellement de générosité dans sa façon de le raconter aussi. Elle le racontait pour que ça serve à quelque chose, pour que ce soit pas inutile ce qu'elle a vécu. Après plusieurs confidences comme ça très touchantes, les gens me disaient mais si t'as besoin de quelque chose, téléphone-moi. Si un jour t'as un problème ou si t'as besoin de quelque chose, surtout garde mon téléphone. Et c'est-à-dire que c'est ce besoin aussi de donner et au lieu de s'enfermer avec son malheur.
Là, vous racontez plein de choses, notamment ce qu'est un mariage hors fille. On ne va pas tout raconter, il faudra le découvrir dans le livre. Le mariage hors fille en Tunisie et puis aussi les limbagos chez les hommes entre, 30, entre 40 et 50 ans. Vous comprendrez aussi pourquoi. Des fous furieux. Ils n'ont rien compris la sexualité, ces hommes-là, mais voilà. Autre confidence, Marie Nimier, cet homme qui s'inquiète de la présence de plus en plus forte des méduses. On va parler un peu cuisine avec vous parce qu'il a une solution. Manger les méduses. Il vous donne une recette d'ailleurs
oui.
avec les méduses de Méditerranée qu'on trouve hein, en Méditerranée l'été.
Bah oui, bah écoutez, la recette est dans le livre, je ne l'ai pas essayé pour vous dire la vérité.
Bon, faut prendre juste les chapeaux de la méduse,
ouais.
les couper en lamelles
oui, voilà.
et les faire frire.
Oui.
Avec un peu de persil, un peu d'oignon, tout ça.
Voilà, vous pouvez rajouter un petit peu d'alcool si votre oui. religion le permet.
Oui, c'est ça.
Et paraît-il que c'est bon.
Bon, les Chinois mangent des méduses d'ailleurs.
C'est ça, il s'est inspiré de la recette ouais. chinoise, oui.
Un pêcheur.
Tout ça, c'est comme
oui,
recueillir dans un café, quoi.
Oui.
Tout ça, c'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire, le café, c'est vraiment le salon du peuple.
C'est vrai, c'est
tout
vrai.
Tout le monde vient. Oui. Une intimité qui est assez étonnante pour un lieu qui est, oui. entre guillemets, public, quoi.
Ce pêcheur aussi qui vous parle d'un poisson très courant en Méditerranée. C'est un peu la curiosité de votre livre, Marie Nimier,
la chelba.
Ou le saupe en français. Le saupe, il faut savoir qu'il ressemble un peu à une dorade, mais il est herbivore. Il est rayé de jaune, il vit en bord de mer, on le trouve facilement quand on plonge. Et il est réputé pour manger une algue qui s'apparente, dit-il, votre pêcheur, à de la cocaïne.
Alors c'est pas un pêcheur, c'est un, ouais, c'est un poissonnier.
Oui, un poissonnier.
Et en effet, paraît-il qu'il y a des gens qui vont s'envoyer en l'air avec ce poisson.
S'envoyer en l'air, c'est-à-dire...
S'envoyer la tête en l'air.
Oui, c'est ça, oui.
non, pardon, mais c'était pas le bon mot.
Oui, non.
Alors, j'ai pas essayé, il faudrait que j'y retourne. Ça vous tente ?
Bah, je sais pas, j'allais vous demander, vous n'avez pas goûté ?
Non.
Bah, on va goûter ensemble, enfin, pour essayer. Les Romains, figurez-vous, en mangeaient lors de soirées dites perchées. Alors, c'est incroyable, je savais pas, parce qu'on les trouve effectivement très facilement en Méditerranée. Il y a aussi le meilleur poisson, selon ce poissonnier, c'est le baliste. Un poisson bourgeois.
Oui, le poisson bourgeois parce qu'il mange des fruits de mer. Hein. Ouais, il m'a...
Oursin, crevette, crabe.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est comme ça qu'il appelle ça, le poisson bourgeois. Mais il a un autre nom aussi, le cochon, non ? C'est pas lui qu'on appelle aussi, parce qu'il fait une espèce de grognement quand on
oui,
le...
c'est ça. Quand on
quand
le sort
on
de l'eau.
Quand on pêche.
Oui.
Ouais, voilà,
le poisson cochon.
Ça aussi.
Bon, d'autres histoires, on va terminer avec le taxi culturel, qui a beaucoup plu à Martha Bass, il me le disait aussi avant l'émission, et cet homme passionné par les taxis. Adolescent, il dépense tout son argent de poche pour prendre des taxis.
Ah non, alors même pas adolescent, petit garçon.
Oui, petit garçon.
C'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire des tours de manège,
c'est précis, hein.
Il va faire des tours de taxi.
Oui.
Tiens, il a ses petits sous, mais c'est trop mignon. Je l'imagine dans le taxi. Et il dit, on va jusqu'à... Et puis quand il voit que le compteur arrive à 150, il dit, ah, stop, vas-y, on sort. Et il sort du taxi, et puis il revient en bus après. pendant ce temps-là, il a regardé toutes les rues, les choses, il a discuté avec les chauffeurs, il adorait. Et puis, lui, il était au paradis dans ses taxis. Et puis, plus tard, son père a voulu qu'il fasse autre chose que taxiste. Là-bas, on dit taxiste pour chauffeur de taxi. Le père étant lui-même chauffeur de camion. Et lui, il a tenu le coup. Alors, il a fait autre chose pour faire plaisir au père. Et puis après, il a eu un taxi. Et non seulement il a accompli son rêve, mais il a transformé son taxi en taxi culturel. Voilà. C'est-à-dire qu'il a amélioré son rêve. Ça, j'adore l'idée.
Avec une bibliothèque dans le taxi.
Voilà, il y a des livres dans le taxi. On peut voir des courts-métrages dans le taxi. Et il y a même un jeu d'échecs pour pouvoir relier les passagers entre eux. Alors, à chaque fois qu'on monte, il y en a un qui fait. Et puis, quand il y a échec et mat, et ben voilà, on met une photo sur Facebook. Et puis, ça relie tous les clients ensemble.
Une belle histoire.
La course est gratuite quand on fait échec et mat.
Avec le taxi culturel.
C'est quelqu'un de magnifique.
Bon, merci. Merci Marie Nimier. Confidence tunisienne est parue aux éditions Gallimard. Vous restez avec nous. Vous allez entendre Bartabas dans quelques minutes. Et à suivre, le nouveau récit donc de Bartabas qui rend hommage à la regrettée Pina Bausch dans un livre d'une grande émotion qui célèbre notamment l'art du corps. Et puis, nous aurons aussi Emmanuel Pirotte qui est en plateau avec nous. Ce sera après Étienne Dao en version concert dans la librairie francophone.
C'était bien là le fameux paradis. Y mettre un pied marin, mais se sentir saisi par ton regard chaud. Ton regard chaud. Oh, oh, alors que l'on se voudrait fort et fier, fondre comme les glaçons au fond de nos verres, boire la nuit entière pour ne plus se taire, pour devenir un autre. Entre désir en rade, désert blanc, je pense à toi la moitié du temps, à ton regard clair, ton regard clair. Oh, 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 aveugle et plein de toi vers la lumière, quand le soleil incendie la mer, j'ai aimé ton mystère, et je peux mieux faire, je me sens comme un homme à la mer, qui a déjà aimé me comprenne, je me sens comme un homme à la mer, que pourrais-je y faire, je me sens comme un homme à la mer. Qui n'a jamais aimé me jette la première pierre. Je me sens comme un homme à la mer. Que pourrais-tu faire? Toi mon ange, un cadeau des dieux que je caresse avec les yeux. Tu fais ma joie, mon gemme précieux. Je te caresse avec les yeux. Je te caresse qu'avec les yeux. Je n'aimais que ton mystère. J'aurais dû lui faire. Je me sens comme un homme à la mer. Mon cœur de pierre n'a vu que la moitié de la mer. Comme un homme à la mer, que pourrais-je y faire? Je me sens comme un homme à la mer. Mon cœur de pierre n'a vu que la moitié de la mer. Comme un homme à la mer, qui sait déjà moi il me comprend.
Étienne Dao avec Comme un homme à la mer, version concert Olympia 92.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Queyrade.
La première partie de la chronique des libraires tout de suite, avant de rejoindre Emmanuel Pirotte avec la Belgique, justement un coup de gueule, dites donc, Nathalie Clairin.
Oui, dites bah Emmanuel, je ne suis pas très chaude en face du livre, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, je ne vois pas pourquoi les éditions des grandes personnes ont sorti le livre pour les tout-petits, Pon, P-O-N, Pan, P-A-N, donc d'après Komagata. C'est un artiste certainement, mais je vous explique. En fait, vous connaissez sûrement les délicieux ouvrages d'Hervé Tullé chez Bayard Jeunesse. C'est des livres où on enseigne aux petits, en associant des cercles de couleurs, à connaître les sons.
Oui.
Bah ici, c'est une pâle redite, mais on se perd parce que la logique dérape tout à fait. Donc moi, j'ai trouvé ça inefficace, en plus d'être énervant.
Bien, ben voilà. Au moins, c'est clair. Merci, Nathalie. Un coup de cœur en Suisse, Annick Vermeaux, ou vous défoulez
aussi?
Oui,
bien sûr. Je vous emmène aujourd'hui dans les sous-bois avec M. Renard et sa grande écharpe facétieuse, M. Sanglier et son marcassin allergique, et surtout avec mon personnage préféré, M. Groumpf, le blaireau râleur qui n'arrive pas à balayer devant sa porte tant ses voisins sont envahissants.
Oui.
Cette petite série jeunesse est un pur bijou. Elle est éditée par les éditions de la Boutière, pour qui j'ai vraiment un grand coup de cœur. Je la chéris particulièrement pour son engagement envers les lecteurs débutants.
Bien, et ça s'appelle donc « Sous les arbres » ?
Exactement, et c'est décidé par Dave.
Et c'est Dave, D-A-V, hein, pas le chanteur, c'est aux éditions de la Gouttière. Et comme chacun sait, évidemment, les blaireaux râleurs, on ne les trouve que dans la littérature jeunesse. Merci beaucoup Annick. Cette musique de Nirvana qui est un peu le fil rouge de votre livre. Bonjour Emmanuel Pirotte.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes une auteure belge, vous signez votre 7e roman, Flamboyant crépuscule d'une vieille conformiste, une femme de 81 ans, vaguement acariâtre, qui apprend qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle adore Nirvana, même à son âge, et elle se donne 3 jours, cette dame-là. 3 jours, et après, ce sera fini.
3 jours après, ce sera fini. Oui, alors elle adore Nirvana, ça peut paraître bizarre. Elle adore Nirvana parce que sa fille aimait Nirvana et que sa fille est morte et elle est complètement passée à côté d'elle, comme elle est passée à côté de sa vie, comme elle est passée à côté de la musique, de plein de choses.
Vous abordez comme ça avec beaucoup de réalisme la fin de vie, celle qui nous est imposée quand on a la chance finalement de vieillir vieux, celle que l'on choisit aussi parfois comme elle. Elle ne va pas attendre d'être grabataire et dépendante pour décider de partir. Et en faisant un retour sur sa vie, elle se rend compte qu'elle a vécu sans réellement exister.
Oui, elle a une vie tout à fait morne, tout à fait éteinte. Elle s'est ennuyée, en gros, voilà. C'est le terrible constat qu'elle fait. Alors, ça peut sembler absolument plombant, une femme qui se retourne sur sa vie et qui dit j'ai raté ma vie. Et en réalité, je crois que c'est jouissif parce que le moment où elle se réveille, qui est le moment, ce fameux lundi où l'histoire commence, l'histoire est structurée en 3 jours, ces 3 derniers jours, lundi, mardi, mercredi. Et ce lundi matin-là, quand elle a décidé qu'elle allait mettre fin à ses jours, tout d'un coup, c'est une sorte de métamorphose, de réveil et de d'un goût éperdu pour la vie.
Elle est dure, Dominique, elle est dure avec elle-même, elle est dure avec les enfants, avec ses enfants, sauf avec sa fille effectivement disparue très jeune d'une maladie. Elle est dure avec tout son entourage, tous ceux qu'elle côtoie. Elle est aigrie.
Alors, je crois pas qu'elle soit aigrie, parce que c'est quelqu'un qui est trop... Ou alors, si elle est aigrie, elle s'est sauvée par beaucoup d'humour. Je crois qu'elle parvient toujours, avec sa férocité et son humour très très noir, très décapant, et l'autodérision dont elle est capable, à nous faire partager des choses qui pourraient sembler aigres et, un peu amères, mais qui peut les faire partager d'une façon qui sera, je crois, plus positive et plus fédératrice, j'espère, du moins.
Alors, c'est vrai que l'intensité monte hein, comme ça, parce qu'on la découvre, elle n'est pas très agréable, on ressent beaucoup, beaucoup de souffrance en elle.
Ouais.
Et puis un jour, dans une église, Emmanuel Pirotte, elle tombe sur un sourire, une femme qui va la bouleverser. C'est juste un détail dans votre livre, mais cette scène justifie tout le reste, pardonne tout, je ne vais pas la raconter. Mais il arrive comme ça, dans la vie, quand on regarde en arrière, que l'on s'aperçoive qu'on n'a jamais été heureux.
Alors, pour Dominique, c'est vrai qu'elle n'a pas été très heureuse dans sa vie, mais il y a quand même des moments de grâce. Moi, je suis très contente que vous parliez de ce moment-là. On m'en parle très rarement, alors que c'est un moment très important, vous avez raison. Et elle a tout d'un coup, elle baisse la garde. Elle se laisse toucher par un autre être humain, ce qui n'a pas été évident pour elle toute sa vie. Mais il n'y a pas eu que cette femme dans l'Église. Elle a quand même cette capacité à voir les moments de grâce. Et c'est là que la lumière s'impose. Le récit est assez ténébreux, c'est vrai. Il est terrible par moments. Mais quand même, Dominique, elle sait que dans sa vie, elle a eu des choses belles, comme elle sait qu'il y en a eu des moches, mais pour ça, il faut être très lucide.
Et oui.
Je crois que c'est ça qui fait la force de cette femme, c'est qu'elle sait, elle a toujours su, et quand elle se retourne, c'est avec lucidité, surtout, mais la beauté aussi.
Elle comprend, au cours de ces 3 jours, que la vie peut être légère. Même si c'est trop tard, elle dit comprendre le champ des possibles dans une vie.
Oui, c'est ça. Elle comprend que la vie peut être légère, en tout cas, que la vie, oui, et c'est vrai, comme vous dites, légère par opposition à cette gravité qu'elle ne supporte pas. La souffrance, en fait, aussi, est quelque chose de très respecté aujourd'hui. Et elle souffre, Dieu sait qu'elle souffre, mais elle le fait avec une forme de jubilation et de vie. En fait, elle est très vivante. Au moment où elle va mourir, elle n'a jamais été plus vivante qu'au moment où elle a décidé de mourir. Et elle n'a jamais été plus légère qu'au moment où elle a décidé qu'il allait lui arriver quelque chose de très sérieux.
Elle raconte « Mes dernières heures me semblent absolument passionnantes, incarnées d'une extraordinaire, indéniable densité. Je profite de chaque seconde de vie, de chaque pulsation cardiaque, dans cette carcasse encore en très honorable état de marche, habitée par un cerveau encore capable d'embrasser les choses essentielles. Je vois ma vie dans sa nudité, sans phare, sans filtre. Je vois et j'accepte tout ce que cette vie contient de ratage et de petitesse, ses rares beautés, ses petits succès, ses infimes victoires sur le néant. Et je vais vous dire, ce n'est pas grave. Rien n'est grave.
Rien n'est grave. En fait, elle a retenu une phrase de Brel dans une interview. Brel dit « Mais la vie, ce n'est pas grave. La vie, c'est un jeu, ce n'est pas grave. Il faut fuir la gravité des imbéciles. » Dominique pourrait faire de cette phrase un peu un de ses motos, parce que voilà, il y en a d'autres, mais celui-là, je l'aime bien.
On va voir du côté de nos libraires ce qu'ils ont pensé de votre livre, Emmanuel Pirotte, avec la France et le Canada. Mathieu Colombe, en France.
Eh bien, moi, je l'ai bien aimé, cette petite Dominique. D'abord parce que j'aime l'humour grinçant, mais aussi parce que, comme tout bon méchant, elle cache un petit cœur meurtri. Et surtout, j'ai beaucoup aimé les injonctions à vivre, en fait, et à penser par soi-même. Et même si parfois suivre le cerveau fatigué de cette brave Dominique n'est pas souvent évident, je pense qu'il serait dommage de passer à côté d'elle sans la voir.
Bien. Étonnant, parce que c'est un livre pas facile, hein. On va y revenir, hein, Emmanuel. Audrey Martel, pour le Canada, qu'en pensez-vous ?
Oh, c'était tellement bon. J'ai franchement adoré. C'est irrévérencieux. Et vous l'avez dit, Emmanuel Pirotte, c'est jouissif. Dominique, elle est frondeuse et attachante. Et en même temps, ben, c'est triste, désespérant. Ça parle de non-dit, de regret, de vieillesse et de solitude avec beaucoup de lucidité. Merci pour ce livre.
Ah bah alors merci beaucoup. Je m'attendais à ce que au moins un des deux libraires le désigne complètement.
Attendez, il y a le présentateur qui arrive.
Non, là c'est pas fini, on n'a pas fini.
Je vous en veux un peu, moi, Emmanuel. Vraiment, je vous en veux d'avoir écrit ce livre parce que effectivement, c'est très bien construit, c'est très bien écrit, très sensible, très crédible. Franchement, c'est réussi et parce que c'est réussi, ça m'a donné une angoisse et un cafard terrible. Cette histoire pourrait être la nôtre. Et c'est ça qui est affreux. Ce livre est horrible parce qu'en plus, il est beau parfois, à l'image du texte que j'ai lu tout à l'heure.
Oui, il est beau à l'image du texte que vous avez lu tout à l'heure. Oui,
l'extrait.
Oui, il est, oui, je vois ce que vous voulez dire, c'est un miroir. D'ailleurs, avant qu'il sorte, c'était ma peur. J'ai pas vraiment d'angoisse avant qu'un livre sorte, mais on se demande toujours comment il va être partagé. C'est quand même un peu obsessionnel les premiers temps quand il est dans les librairies. Et je me suis dit, effectivement, ce qui risque d'être quand même très compliqué, c'est qu'en lisant ce livre, on se regarde un tout petit peu chacun d'entre nous dans un miroir. Mais j'ai commencé par le faire moi-même.
Enfin, ah oui, on projette. Ouais.
Sinon, c'est pas possible d'écrire ça. On doit être parfaitement honnête.
Et, mais alors... c'est peut-être trop réussi du coup, parce qu'on s'y retrouve. Non, mais... je suis désolé de vous dire ça, mais c'est vrai que...
Est-ce que vous ne croyez pas quand même plutôt que c'est juste un coup de pied au derrière ? Enfin, je ne sais pas, j'espère, oui. Parce que non, c'est vrai que ça peut être un peu traumatisant.
C'est dur. Hein,
et puis
vraiment.
Si on passe ce cap-là, c'est, j'espère, en tout cas, une injonction à vivre, simplement.
Oui. Emmanuel Pirotte, vous posez dans ce livre la question de la fin de vie. Un débat sur ce sujet court depuis quelques mois en France, notamment. Des artistes comme Françoise Hardy ou Lynn Renaud militent pour que l'on puisse avoir accès à une fin de vie décidée et abrégée en cas de souffrance. Dominique, votre personnage a décidé de ne pas attendre de souffrir.
Voilà.
Elle a choisi le suicide.
Dominique, elle est dans un cas très particulier. Si vous voulez, chez nous, l'euthanasie, donc en Belgique, est acceptée, elle est pratiquée, elle est tout à fait légale, mais c'est quand même très compliqué à obtenir. C'est-à-dire qu'il faut souffrir d'une maladie incurable, accompagnée de souffrances intolérables, physiques ou morales. Mais enfin, c'est quand même surtout physique dans les cas concrets. Et donc, quand vous avez été diagnostiqué Alzheimer, à partir de quel moment votre esprit déraille suffisamment pour que vous ne soyez plus en état de demander, voilà. Et Alzheimer ne fait pas partie de ces maladies qui peuvent obtenir l'euthanasie. Alors moi, je pense qu'il faudrait commencer à réfléchir très sérieusement au suicide assisté pour les personnes âgées, sans attendre d'ailleurs d'avoir Alzheimer, parce qu'il y a des gens, ils ont 85 ans, ils ont tout simplement, ils sont fatigués, voilà. Bon, moi, je suis très très en faveur de ça. Et donc voilà, oui, Dominique, elle décide de le faire, mais parce qu'elle vient aussi d'un milieu quand même extrêmement corseté, enfin très très bourgeois, très catho, très voilà. Donc les enfants seraient pas d'accord. Elle a envie de se passer de tout ce foufatras là.
Mais vous
et
décrivez
de le faire
ça
de manière très romanesque.
Vous décrivez très bien le suicide. Avez-vous pensé aux lecteurs qui sont en souffrance et qui vont lire ce passage-là comme un suicide possible? Parce que quand on lit la façon, on va pas tout raconter, hein, mais la façon dont elle le fait, on se dit que c'est pas si compliqué que ça.
Non, c'est pas si compliqué.
C'est pas si dur que ça.
Il faut un fameux courage. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, on est nombreux à avoir eu des cas de suicide proches. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc, l'histoire de Dominique, c'est pas quelque chose de totalement étranger à mon univers proche. Et puis, de toute façon, on se renseigne. Enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué de savoir comment on peut faire ça. Si j'entends bien ce que vous me dites, c'est que ça peut éventuellement convaincre quelqu'un de passer à l'acte. J'ai envie de vous dire, si cette personne est absolument résolue, pourquoi pas. Moi, je respecte ça complètement. C'est très beau, c'est très noble, à partir du moment où c'est parfaitement réfléchi, mûrement voulu, éperdument voulu. Parce qu'il y a des gens qui désirent éperdument mourir, et il y en a d'autres qui désirent éperdument vivre. Et ce que j'espère avoir réussi à faire, c'est raconter l'histoire d'une femme qui, tout d'un coup, désire éperdument vivre parce qu'elle va mourir. Mais je pense que l'acte du suicide peut, dans certains cas, je dis bien, alors je parle ici de ma vieille dame avec ce qu'elle a comme maladie et l'âge qu'elle a, on ne parle pas du tout de jeunes personnes. Bon, dans certains cas, je parle essentiellement pour les personnes âgées, la fin de vie, c'est quand même très très compliqué de nos jours, il n'y a pas de solution miracle, et je trouve que elle pose un acte d'une extraordinaire, un acte très vivant, finalement.
Merci Emmanuel Pirotte. Merci. Votre livre a séduit nos libraires. Ouais. Effectivement, il y a beaucoup de lumière dans ce livre, même si, voilà, on va pas le lire un dimanche de pluie, mais
c'est un beau livre.
Flamboyant crépuscule d'une vieille conformiste est paru au Cherche Midi. Merci Emmanuel. Vous restez avec nous. Vous connaissez Bartabas?
Ah, je connais Bartabas pour ses spectacles, mais je n'ai jamais lu ses livres.
Livre magnifique dans un instant. À suivre, donc, ce nouveau livre de Bartabas qui poursuit son œuvre autour de sa passion des chevaux et de l'art. Ce sera après le groupe Del Grèce dans la librairie francophone.
And I'm walking alone, yes, I'm walking alone, yeah. Moi qu'à lever le matin, moi qu'à prendre café en moins. Il fait froid et je me sens si seul. J'ai tout laissé derrière moi, je vais pas revenir sur mes pas. Maintenant faut avancer tout seul. Elle m'avait dit, le monde est ton pays. Elle m'avait dit, tu seras mieux qu'ici. Elle m'avait dit, ne te retourne pas. Elle m'avait dit, je serai près de toi. Mais quand je regarde autour de moi, personne, non. And I'm walking alone, yes I'm walking alone. Je marche seul, que le bruit de mes pas. And I'm walking alone, yes, I'm walking alone. Des sandales dans la villa, pour mon pack à calculer moins. Mon café, 10 affaires moins, tout fait. Alors moi qu'à penser à vous, est-ce vous aussi ou qu'à vivre ça? Est-ce vous aussi ou qu'à sentir tout seul? Elle m'avait dit, le monde est ton pays. Elle m'avait dit, tu seras mieux qu'ici. Elle m'avait dit, le temps fait pas pour moi. Elle m'avait dit, je serai près de toi. Mais quand je regarde autour de moi, personne. Oh, and I'm walking alone, yes I'm walking alone. Je marche seul, que le bruit de mes pas. And I'm walking alone, yes I'm walking alone. Je marche seul, que le bruit de mes pas. And I'm walking alone, yes I'm walking alone, yeah. Que le bruit de mes pas.
Le groupe créole d'Elgrès avec Walking Alone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Bart Tabas est dans la librairie francophone pour son récit Un geste vers le bas. En 1990, Bart Tabas, vous rencontrez la grande danseuse et chorégraphe allemande Pina Bausch. Une amitié se noue entre vous et vous lui présentez un cheval. Peu à peu, au fil de ses séjours en France, vous établissez un contact avec elle, mais surtout un contact entre elle et ce cheval. Et il y a beaucoup de silence entre vous. Vous dites d'ailleurs, je reconnais ce silence, le langage vertueux des chevaux.
Bah oui, puisque c'est censé décrire les relations d'une femme avec un cheval, une danseuse donc qui ne parle pas, puisqu'elle parle avec ses gestes, et le cheval qui, pour l'instant, n'a toujours pas la parole. C'est vraiment observer les silences, en fait, ce qu'il y a sous les couches de silence, j'allais dire les intentions, le vocabulaire qui est en train de se créer, un vocabulaire qui est fait justement de gestes silencieux et d'attention. Donc il y a quelque chose d'assez particulier, quoi, d'assez délicat, d'assez... En plus, bon, toutes ces rencontres se faisaient toujours la nuit, puisque c'est ça qui est incroyable dans cette aventure, c'est qu'elle s'est fait parallèlement à nos activités respectives, qui étaient quand même assez foisonnantes, parce que bon, diriger le Théâtre Zingaro et elle, sa compagnie, c'est quand même... voilà, c'est toute la journée sur le qui-vive, le voyage à travers le monde. Et à chaque fois qu'on se croisait, soit en tournée, soit à Paris, l'occasion de créer ce lien. Mais surtout, ce qui était intéressant, je pense que c'est ça qui est quand même incroyable avec le recul, c'est qu'on... On est parti dans un projet sans aucune règle. Il n'y a pas de commande, il n'y a pas de
date, rien.
Voilà, on fait cette expérience, on la vit et ça fera peut-être un spectacle, ou ça n'en fera peut-être pas.
Et ça dure combien de temps?
Ça dure presque 10 ans, 12 ans, quoi, jusqu'à la mort du cheval, en fait. Donc c'était assez intéressant, mais très vite, c'est très particulier parce que sans se le dire, je me suis aperçu, on s'est aperçu d'ailleurs sans se le dire, que ce qu'elle vivait, sa relation avec le cheval, était tellement puissante, tellement particulière, personnelle, que la mettre en scène aurait été la galvaudée presque. C'est-à-dire que tout d'un coup, d'un commun accord, on se rendait bien compte, alors que les directeurs commençaient à avoir entendu parler du projet, voulaient nous faire visiter les salles, etc. Et nous, on savait déjà que ce qui se jouait là était tellement important que même le représenter, ça aurait été le galvaudé, quoi.
Mais il y a une distance entre vous, une pudeur aussi. On la ressent vraiment, on se connaît depuis longtemps, Bart Tabas, on peut le dire. Et c'est vrai qu'en lisant ce récit, je vous ai retrouvé en Pina Bausch, dans son élégance, dans ses silences, ce respect physique de l'autre. Et vous dites même avoir été maladroit avec elle. Un jour, alors que vous partez à New York pour présenter votre célèbre spectacle Zingaro, elle vous demande si les chevaux ont peur en avion. Et vous lui répondez une phrase consternante, dites-vous.
Oui, bah je lui dis, regarde pas par le hublot, donc ils ont pas peur, quoi. Mais ce qui est complètement con.
Ils n'ont pas conscience d'être dans les airs, ils n'ont pas accès au hublot.
Bah c'est-à-dire que Pina, c'était quelqu'un qui avait le don de... C'est là-dessus qu'on se retrouvait pas mal, c'est-à-dire quelqu'un d'en fait très timide, très respectueux de l'autre, et en même temps avec une force et une volonté, parce que pour diriger une compagnie et créer ce qu'elle a créé, bon, il fallait une vraie force, quoi. Et donc ça pouvait être désarmant parfois, parce que moi je suis un peu pareil, c'est-à-dire tout d'un coup c'était plus exactement dans le même mood, quoi. Toc, ça peut faire des étincelles, quoi. Mais voilà, pour moi ça a été un vrai travail même de, j'allais dire, de mémoire, quoi, parce que c'est quand même des événements qui sont passés il y a 20 ans.
Hein.
Qu'est-ce que le souvenir? Le souvenir, c'est comme des mines dans le champ de la mémoire, quoi. C'est-à-dire, faut les déterrer avec beaucoup de précautions, sinon elles explosent et elles disparaissent, quoi. Il faut beaucoup de temps pour bien se souvenir, en fait. Souvent, on dit, on va oublier ça, faut vite le noter. Évidemment, je n'ai jamais pris de notes, à part ces petits dessins, ces petits croquis qu'on voit
en dernière page. Ouais.
Mais c'est quelque chose, pour que ça ressurgisse, ce souvenir doit être élagué, presque en enlever le côté trop chargé en émotions, quoi, pour que ça apparaisse comme un poème, pratiquement.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme un long poème, votre livre, Bart Tabas. On assiste en tout cas à ces échanges entre le cheval et Pina Bausch. Le cheval qui l'ignore au début, comme font tous les chevaux, hein, avec tout le monde. Il l'apprend un peu de haut. Et puis, peu à peu, il va se rapprocher. Ils vont se rapprocher tous les deux, jusqu'au bisou du cheval.
vous racontez ça, qu'il l'embrasse dans sa main.
Oui, bah, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais à la recherche de la rencontre originelle, en fait. Ça m'intéressait de mettre en face quelqu'un qui ne connaît pas du tout les chevaux, mais dont je sais qu'elle a une grande force intérieure, donc qui est là, et l'animal, pour essayer de retrouver presque la première rencontre. Au départ, j'avais ça dans la tête, en me disant, quelle a été la première rencontre d'un homme et d'un cheval, ou d'un humain et d'un cheval, comment ils se sont abordés. J'avais une autre anecdote comme ça, très simple, c'est quand tu connais les chevaux, moi, je suis trop perverti. Je sais que tu vas les caresser sur l'encolure. Et je me souviens toujours, quand j'ai fait ce geste, et je l'ai invité à faire ce geste, elle était presque choquée en disant, mais ça se fait pas, si je croise un inconnu dans la rue, je vais pas lui caresser le cou. Ce qui est assez logique, en fait.
Oui. Elle vous dit d'ailleurs, après une énième séance d'approche, tu es un magicien.
Oui, bah, c'est-à-dire que quand c'était un récit assez halluciné, hein, parce que c'est quand même, fallait avoir la santé à l'époque. Parce que moi, je la mettais dans le taxi à 6h du matin, elle rentrait à l'hôtel, et moi, j'enchaînais ma journée, quoi.
Et surtout, vous aviez...
Donc la nuit, il se passe des choses, la notion de temps disparaît complètement, quoi.
Et vous buviez beaucoup de vin aussi, hein.
Alors c'était aussi ça, c'est non, se remettre dans cette ambiance où moi, je fumais, j'ai arrêté il y a 16 ou 17 ans de fumer.
Oui.
Bon, elle et moi, on fumait comme des... Bah, elle, et là, ça lui a... C'est ce qui lui a coûté la vie, je pense. Mais voilà, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, tout le jeu de la cigarette, c'est très intéressant. Enfin, pour moi, ça me fascine aussi le dialogue de la cigarette. C'est-à-dire offrir une cigarette, recevoir une cigarette, se l'allumer soi-même, l'allumer à l'autre. Enfin, il y a tout un peu un dialogue, un peu, à travers la cigarette. Et puis, bon, un peu de pinard, quand même.
Et tout ça pour ne pas parler, Barthabas, hein ? La cigarette, les gestes, les silences, tout ça pour ne pas parler.
Bah,
c'est incroyable, quand même.
On pouvait parler pendant des heures, non, mais... et puis tout d'un coup, rester des heures sans parler. Mais...
La discrétion, la pudeur de Barthabas. Tout est là, dans ce livre.
Oui, sans doute. Bah, en plus, l'histoire est incroyable, parce que même jusqu'au bout, mais c'est ce qui en fait la beauté, je pense. C'est-à-dire que même quand le cheval était mort, il se trouve que j'avais une carte blanche au Festival d'Avignon, en plus du spectacle Lungta avec les moines tibétains. Et donc, j'avais prévu, personne n'était au courant, même Fèvre Darcier, le directeur du festival, n'était pas au courant. On avait convenu qu'elle ferait une intervention dans cette soirée, où elle évoquerait le cheval en dansant toute seule, quoi.
Pour lui rendre hommage, oui.
Voilà. Ah. Et même ça, ça n'a pas été possible, puisque c'était l'année où le festival a été interdit, et personne n'était au courant, quoi. En même temps, c'est assez triste comme ça, et en même temps, je trouve que c'est assez beau, parce que ça conclut vraiment l'histoire qui, de toute façon, c'était pas fait pour être vu, quoi.
Ouais,
c'est juste peut-être être fait pour être raconté dans un livre.
C'est épistolaire.
Exactement. Ouais.
Les libraires ont lu votre livre, Barthabas. On va aller au Canada, ça vous va le Canada ?
Pas mal.
Ouais. Allez, Audrey Martel, allez-y.
J'ai beaucoup aimé votre écriture poétique et finement déployée. Je connaissais ni le théâtre Zingaro ni Pina Bausch. J'ai donc dû faire quelques recherches au début pour pleinement apprécier l'ouvrage. Mais je me suis rapidement laissée porter par cette histoire de chevaux, d'art et de création, au point où je me suis même lancée dans la lecture de votre précédent livre dès que j'ai terminé celui-ci.
Très bonne idée. La Suisse, Annick Vermeau.
Je suis en même temps enthousiaste et un chouïa frustré à la lecture de votre livre. Vous levez subtilement un coin du voile du processus de la création d'un spectacle. Ces innombrables heures passées à observer ces deux êtres, vous les retranscrivez d'une manière fine et délicate, presque à la manière d'un chorégraphe. Mais voilà, il m'a manqué l'esquisse un tout petit peu plus précise d'une de ces danses pour pouvoir enfin rejoindre la piste et me joindre totalement à cette rencontre.
Oui, c'est vrai que c'est un peu abstrait, c'est poétique, c'est épistolaire, comme on disait avec Barthabas. C'est pas un récit comme on a l'habitude de les lire, mais voilà, il y a une... Enfin, Barthabas, allez-y, je vous défends. Mais...
Oui, non.
J'ai pas besoin de vous défendre.
Je revendique, tout est dans les silences, quoi. Le silence est la seule offrande, en fait, de ce livre.
Nathalie Clairin, en Belgique, qu'en pensez-vous ?
Oui, mais moi j'ai beaucoup aimé en fait. Si quelqu'un ignorait encore que l'apprivoisement d'un cheval et d'un homme, c'est du travail de dentelière, ben j'ai envie de dire, ici, il le saura. Le livre aussi, d'ailleurs, il est tout en finesse. Tout en étant un merveilleux hommage à votre ami disparu, Barthabas, vous confortez bien sûr ma perception du lien humain à l'animal et vous m'avez mis en tête de très belles images.
Il y a de belles images dans ce livre, Barthabas, effectivement. Le geste vers le bas qui donne son titre à votre livre, c'est quand le cheval accepte l'humain dans une forme de soumission, quand il baisse la tête vers vous.
Il y a pas mal de lectures, ça peut être aussi une salutation, un hommage. Ouais. Ça peut être aussi le geste d'écrire, descendre de son cheval pour écrire.
Ouais.
Il y a beaucoup de... Je suis un vieux jeune écrivain, quoi, puisque j'ai commencé à 60 ans à écrire. Mais maintenant, je me rends compte qu'en fait, plus de 40 années à monter à cheval m'a préparé à écrire, bizarrement. C'est-à-dire qu'il y a une grande similitude entre le fait de quotidiennement avoir ce dialogue silencieux avec un animal, rechercher l'équilibre, le juste mouvement, l'intention d'un geste. Mm-hmm. C'est assez proche de la notion d'écriture, en fait.
Mais c'est ce qu'elle va ressentir, Pina Bausch. elle va ressentir tout ça. Ouais. Et vous écrivez d'ailleurs, à un moment, je sais maintenant qu'elle ne sortira pas indemne de cette aventure.
Oui, parce qu'il fallait déjà de sa part un certain courage hein, pour rentrer dans ça. Surtout que là, on parle du Zingaro du début, hein, ouais, d'il y a 30 ans. Donc, c'était pas le Zingaro de maintenant qui était à peine connu. On était un peu plus sauvage.
Mmh, oui, c'est moi qu'on puisse dire.
Donc, il fallait oser s'aventurer quand même en terrain inconnu comme ça, partir en pleine nuit. C'est pas évident, quoi. Et ça, c'est aussi sa force, quoi.
Et, vous étiez des nomades en caravane.
Quelque part.
Mais oui,
oui
c'est
bien
vrai.
Sûr, oui, oui.
Brut.
Oui, oui. J'ai eu d'ailleurs la même aventure avec Alain Cavalier, en fait, sauf qu'elle a débouché sur un film.
Alors, Campina Bausch-Fini, au fil des séances et des rencontres, elle va danser devant Micha Figa, ce fameux cheval. Et vous allez dans son box le matin, alors qu'il attend son petit déjeuner, et vous lui dites à ce cheval, comment oseras-tu danser maintenant?
C'est des moments tellement impalpables, hein, où tout d'un coup, quelque chose se révèle et tu sais que ça a disparu au moment où ça s'est créé.
Ouais.
C'est là où il y a vraiment des, sur une, quelque chose de très puissant et en même temps très, très fragile, quoi. Ce qui est d'ailleurs le propre de la création du spectacle vivant, quoi. Quelque chose qui marque et qui va changer complètement les relations, alors qu'en fait, ça s'est passé sans mots, ça s'est passé de manière très subtile et peut-être même qui n'aurait pas été vu par une autre personne de cette manière-là, hein.
Voilà, Marie Nimier vous regarde avec des yeux tout émus.
Oui, non, j'ai lu ce livre aussi, qui m'a, les images m'habitent, voilà, les images
vous
habitent. Après, on aimerait que le prochain, vous alliez plus loin dans le récit.
Bon, bah, attendez, il a déjà
là,
prévu.
Là, on est dans l'évocation.
Il a déjà prévu, il a tout un plan d'écriture.
Vrai. Alors, il faut y aller, il faut travailler.
Il est lancé maintenant c'est
au
fini.
Ça, c'est les chevaux qui me le diront.
Merci beaucoup, Bartabas. Un geste vers le bas est paru aux éditions Gallimard. À bientôt.
Merci à vous.
Merci.
À
la chronique des libraires, seconde partie.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Dénué de toute émotion. C'est un coup de gueule en France, Mathieu Colombe.
Non, j'ai fait la mort dans l'âme quand même sur une bande dessinée qui s'appelle Bunkerville chez Ankama. Le scénario, encore une fois, parce que c'est pas la première BD que je critique de cette manière-là, enfin, veut faire de grandes choses, hein, veut parler d'une entrée dans la folie, enfin voilà, c'est très intéressant, mais le problème, c'est que vu que la bande dessinée, c'est une alchimie, en fait, parfois entre le texte et l'image, quand les dialogues marchent pas, et ben, en fait, la bande dessinée s'effondre, et là, c'est exactement le cas de ce Bunkerville. C'est-à-dire qu'on aimerait l'aimer, mais on peut pas, parce que, notamment à cause des dialogues, en fait, on n'arrive pas à rentrer dedans, et tout tombe à plat, et c'est tellement dommage.
Bunkerville aux éditions Ankama. Merci Mathieu, un coup de cœur au Canada, Audrey Martel.
Oui, mon coup de cœur va à Semer des soleils aux éditions La Courte Échelle, un superbe roman jeunesse agrémenté d'illustrations évocatrices qui sont signées par Enzo et qui aborde le sujet de la guerre qui, même si elle se déroule dans un pays lointain, ben, nous affecte quand même. Le texte d'André Poulain évoque à la fois l'anxiété et l'espoir dans un style très original, des vers libres qui donnent du rythme à l'histoire tout en apportant une touche de poésie qui allège le propos qui est parfois évidemment un peu lourd.
Semer des soleils, c'est un joli titre. Merci Audrey, merci beaucoup. Pour conclure, le son de l'outre-mer avec l'artiste martiniquais Yanis Odua.
J'ai toujours choisi qui m'entoure. Éviter les faux frères, écarter les faux tours, esquiver les faussaires, eux et leurs faussaires, je les connais pas en cœur. Les miens ne parlent pas par derrière. Y'a déjà trop d'acteurs, trop de râleurs et beaux parleurs. Avec les vrais amis, la connexion est évidente. Pas besoin de faire de chichi, pas besoin qu'on nous présente. La vie nous a aguerris, notre vérité est blessante. C'est pour les mêmes qu'on écrit, pour les mêmes qu'on représente. À solitude. Ceux qui partagent ton chemin. Quitte yo palais, 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 palais. Quitte yo palais toujours. Gade, 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 gade. Français doit tous les jours. Tchabé, 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 tchabé. Être en volonté nous. Soudé, 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 soudé. Soudé nous pour toujours. Yo palais, 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 palais. Quitte yo palais toujours. Gade, 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 gade. Français doit tous les jours. Tchabé, 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 tchabé. Être en volonté nous. Soudé, 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 soudé.
Un extrait de Quitte yo palais de Yanis Odua, originaire de la Martinique. Et c'est la fin de cette émission. Merci Marie Nimier, merci Emmanuel Pirotte, merci à vous, merci Bartabas, à bientôt.
Merci à vous.
Merci. Je vous retrouve sur Facebook, Instagram et X pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Alexandre Chénet à la technique, Thierry Dupin à la prog musicale, à la rédaction Jean-Philippe Verret et Christophe Magère de France Inter avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, c'est le printemps. Et oui, enfin, Johan Sfar sera avec nous et le retour du grand dramaturge québécois Robert Lalonde, entre autres. Bonne semaine, bon week-end à tous.